Bien, alors on va rentrer un petit peu dans la démarche d'investigation. En fait, ce qu'on va voir, c'est que, mais vous l'avez déjà, je pense, en grande partie vu à travers ce que je viens de vous dire, à travers le terme de démarche d'investigation, on met beaucoup de choses derrière ce terme. Alors, nous, justement, l'objectif de cette présentation, ça va être de vous indiquer ce que nous, on y met, ici. Voilà, alors, donc, le titre « Démarche d'investigation comme remède au monumentalisme dans l'enseignement ». Alors, je vais parler un petit peu de ce monumentalisme, conditions et contraintes. Alors, je vais partir de ce que j'ai trouvé dans un manuel qui n'a plus cours actuellement, mais que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous l'avez reconnu, celui-là ? C'est un manuel de première S de l'ancien programme. Mais comme le produit scalaire est toujours au programme en première S à l'heure actuelle, il est pertinent. Voilà, alors, donc, ici, j'ai scanné une activité sur les quatre expressions du produit scalaire. Le but de cette activité, nous dit-on, est de montrer sur un exemple les différentes façons de calculer un produit scalaire. C'est l'activité de démarrage, c'est la première activité du chapitre produit scalaire de ce cours de première S. Bon, on nous donne un triangle équilatéral dans lequel l'unité de longueur AB égale 3. Et puis on prend les milieux des côtés. Et puis on pose U égale vecteur BA, V vecteur BC et l'angle ABC qui est θ. Premièrement, calculer ça. 1/2 de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Bon, on nous donne une indication. Deuxième question, calculer norme de U fois norme de V fois cosinus θ. Troisième question, calculer AB fois BI, donc le projeté orthogonal, mais on ne nous le dit pas, de A sur BC. Et après, on passe en analytique, on prend un repère orthonormal, on dit, quelconque, des coordonnées de points dans ce repère, évidemment. Et on nous demande de calculer xx' plus yy', de manière à montrer que c'est égal à la première expression qu'on nous a fait calculer, qui vaut 9/2, on leur fait confiance. Et puis après, calculer bk scalaire ac. Alors on ne sait pas trop ce que c'est ça. Relier le résultat au fait que les vecteurs sont orthogonaux. Bon. BK scalaire AC, donc là on doit trouver un produit scalaire nul, puisqu'ils ont l'air d'être orthogonaux, puis on est dans un triangle équilatéral. Conclusion de tout ça, les quatre expressions donnent le même résultat. Chacun de ces nombres est appelé produit scalaire. Voilà donc une activité. Alors, qu'est-ce que... Bon, vous voyez, première activité pour les élèves. Et évidemment, l'élève un peu curieux, il doit se dire, mais... À quoi ça sert le produit scalaire ? Là, on me fait calculer un truc, on me dit que ça, il y a quatre expressions différentes qui donnent la même chose, le même résultat. On dit que ça s'appelle produit scalaire, mais pourquoi on me fait calculer ça ? À quoi ça sert ? Quelle est la raison qui ferait nous intéresser à ce truc ? Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a une question à laquelle répond cette expression-là ? Bon, on a bien vu que quand les vecteurs étaient orthogonaux, apparemment, le produit scalaire semblait être nul. Mais bon... On n'en sait pas plus. Autrement dit, la question c'est, à partir des connaissances antérieures des élèves, est-ce qu'il pourrait y avoir une question qu'on dévoluerait, alors, c'est-à-dire dont les élèves auraient la responsabilité de produire la réponse, et dont la réponse serait justement le produit scalaire, en tant que réponse à une question. Bon, ça semble assez légitime, me semble-t-il. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors j'en ai trouvé un où on commençait à aller un petit peu plus loin, bon, je ne voulais pas montrer, mais qui est un peu dans le même style, même si celui-là est un peu caricatural. Je vous signale quand même qu'il est extrait d'un des manuels de première S qui était, avec le terraché, ça n'est pas le terraché, le plus utilisé dans les lycées. Alors, qu'est-ce qu'on voit à partir de ça ? Ce qu'on voit, c'est Yves Chevallard, qui est un didacticien des mathématiques extrêmement connu, puisque il est connu à travers le livre « La transposition didactique », mais depuis « La transposition didactique » qui est sortie en 1985, vous savez que il a quand même beaucoup produit depuis, il a appelé le monumentalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monumentalisme? Ben, là, j'ai pris quelques citations de Chevallard. Donc, il nous dit que, ben, finalement, l'enseignement des mathématiques ressemble à une visite de musée, grosso modo. C'est-à-dire que on visite des monuments, le produit scalaire, hein, bon, on file la métaphore, le
théorème de Pythagore,
j'avais tout à l'heure, le cercle circonscrit au triangle, qui était sans doute vivante à des moments donnés. C'est un peu comme quand vous visitez le Louvre, bon, ben, vous avez quand même des indications qui vous disent à quoi servaient les pierres tombales ou d'autres choses en Mésopotamie ou en Égypte à certaines époques. Mais, nous dit-il, c'était sans doute très vivant, sans doute ça répondait à des questions, sans doute c'est ce qu'il appelle les raisons d'être. Il y avait des raisons d'être du produit scalaire, par exemple, mais les fonctions vitales ont cessé d'être comprises et reconnues. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les bons élèves, eux, c'est-à-dire nous, hein, ici dans cette salle, ben, on s'est posé les questions, on sait à quoi sert le produit scalaire, parce que sans doute élève, on l'a rencontré ensuite dans les problèmes, on s'est dit, tiens, ça sert donc à ça le produit scalaire, on a fait nous-mêmes une démarche personnelle qui nous a permis de comprendre à quoi ça sert. Mais, dit-il, le point de vue monumentaliste donne le primat à l'étude à vide, et là on a bien une étude à vide à travers l'activité que je vous ai montrée tout à l'heure, et rejette au second plan la logique des questions et des réponses. Alors évidemment, ce qu'on va essayer de faire vivre à travers d'une démarche d'investigation, c'est justement de montrer que les mathématiques sont des réponses, mais en faisant étudier les questions auxquelles elles répondent par les élèves. C'est-à-dire faire rencontrer les questions aux élèves. Le pari monumentaliste est que les usages du savoir s'imposeront d'eux-mêmes le moment venu, c'est-à-dire dans les problèmes, activités, exercices que l'on donne aux élèves ensuite. Alors, caricaturalement, ça serait, vous savez, la question d'élève. Mais à quoi ça sert tout ça? Cherche pas, tu apprendras, tu le verras plus tard, tu comprendras plus tard, quoi. Bon. Bien. Et donc, ben, qu'est-ce qui disparaît? C'est les fonctions du savoir en tant que réponse à des questions, comme outil de production de connaissances, dit-il, au profit de sa rencontre directe, mais avec sa structure. C'est-à-dire qu'on enseigne la structure, mais on oublie les fonctions. À quoi ça sert? Voilà. Et ce que l'on peut voir, c'est que, ben, vous savez, à partir des années, du début des années 80, c'est imposé au niveau de l'école primaire, puis après du collège, puis après c'est monté au niveau du lycée, des activités. Et donc, on met les élèves en activité. C'est-à-dire que, bon, ben, ils répondent à des questions, mais ces questions sont des questions banales, dont on ne voit pas à quoi elles répondent, etc. Et donc, les activités n'ont pas véritablement permis de passer d'une pratique monumentaliste, comme dit Chevallard, à une pratique fonctionnelle. Et ça, on en a à foison dans les manuels ou sur l'Internet lorsque vous cherchez des activités, etc. Alors, si on fait un petit retour en arrière, voilà. Bon, alors, donc, j'avais oublié ce point-là. Alors, ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est aller vers un changement de paradigme, c'est-à-dire de paradigme de la forme scolaire, c'est-à-dire de quitter la visite des œuvres, le monumentalisme, pour retrouver les fonctions premières des mathématiques que l'on enseigne. Alors, quand on fait un petit retour en arrière, alors ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, parce que j'ai scanné, hein, bon. Alors, ça, c'est les éléments de Clairaut qui datent de 1741. Bon, alors, j'ai pointé... certains passages, c'est la préface des éléments de géométrie de Clairaut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Éléments, d'ailleurs, s'écrivait sans T à cette époque-là, j'ai pas fait de faute d'orthographe. Voilà, c'est comme ça. Alors, il nous dit, je vous le lis, parce qu'on voit pas très bien, premier paragraphe, là, « Quoique la géométrie soit par elle-même abstraite, il faut avouer cependant que les difficultés qu'éprouvent ceux qui commencent à s'y appliquer viennent le plus souvent de la manière, tiens, dont elle est enseignée dans les éléments ordinaires. » Déjà, la manière dont elle est enseignée... Alors, les éléments ordinaires, c'est les éléments d'Euclide, hein, bien sûr, parce qu'à cette époque-là, on apprend les mathématiques à travers les éléments d'Euclide, et à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, des mathématiciens rédigent des manuels qui s'appellent les éléments, dans la tradition d'Euclide, on garde le nom. On y débute toujours, dit-il, par un grand nombre de définitions, de demandes, d'axiomes et de principes préliminaires. Là, on retrouve les éléments d'Euclide, si vous vous souvenez, ça fonctionne comme ça, qui semblent ne promettre rien que de sec au lecteur. Les propositions qui viennent ensuite ne fixant point l'esprit sur des objets plus intéressants et étant d'ailleurs difficiles à concevoir, il arrive communément que les commençants, donc les élèves, hein, se fatiguent et se rebutent avant que d'avoir aucune idée distincte de ce qu'on voulait leur enseigner. Je crois qu'on n'a pas trop avancé depuis l'époque de Clairaut pour certains types d'enseignements et certains types de commençants, comme dit Clairaut. Ensuite, au milieu, là, je vous lis. J'ai pensé, donc Clairaut, lui, c'est un pédagogue. Bon, on pourrait dire c'est un didacticien avant l'heure, mais bon. Donc, il a fait des éléments d'algèbre aussi, hein, Clairaut. Bon, la croix, d'autres encore. Des ou. J'ai pensé que cette science, comme toutes les autres, devait s'être formée par degrés. Donc, lui, il revient en quelque sorte à l'histoire de la géométrie, en quelque sorte, mais il retrouve les raisons d'être, les fonctions. Que c'était vraisemblablement quelques besoins qui avaient fait faire les premiers pas et que ces premiers pas ne devaient être hors de la portée des commençants. Donc il faut retrouver les raisons d'être, puisque c'était des commençants qui les avaient faits. Prévenu de cette idée, je me suis proposé de remonter à ce qui pouvait avoir donné naissance à la géométrie et j'ai tâché d'en développer les principes par une méthode assez naturelle. Freiner, méthode naturelle, n'est-ce pas? Je ne sais plus où j'en suis. Prévenu de cette idée, je me suis proposé de remonter à ce qui pouvait avoir donné naissance à la géométrie et j'ai tâché d'en développer les principes par une méthode assez naturelle pour être supposée la même que celle des premiers inventeurs, observant seulement d'éviter toutes les fausses tentatives qu'ils ont nécessairement dû faire. Autrement dit, je vais droit au but, comme on dit à l'Olympique de Marseille, droit au but. Sans passer par les détours. La mesure des terrains m'a paru ce qu'il y avait de plus propre à faire naître les premières propositions de la géométrie. Et si vous regardez les éléments de Clairaut, c'est tout le temps les mesures de terrain, de distance inaccessible entre divers points, et il développe les mathématiques, la géométrie, à travers ces questions-là. Comment faire pour calculer à distance la largeur d'un fleuve, d'un lac ou attaquer la tour d'en face avec des canons, etc. Bon, voilà. Et dernière citation, afin de suivre dans cet ouvrage une route semblable à celle des inventeurs, je m'attache d'abord à faire découvrir aux commençants les principes dont peut dépendre la simple mesure des terrains et des distances, accessibles ou inaccessibles, etc. Autrement dit, chez Clairaut, déjà, on a l'idée directrice de retrouver les raisons d'être des éléments de savoir que l'on va enseigner aux commençants, comme dit Clairaut, etc. Ça signifie pas, déjà chez Clairaut, qu'on va faire un cours d'histoire des mathématiques, puisqu'il va aller droit au but, d'accord ? C'est-à-dire toutes les erreurs, les errements, les tentatives, les techniques qui n'étaient pas d'une grande efficacité, ben, l'histoire des mathématiques les a oubliées. Enfin, l'histoire permet de les retrouver. Mais en mathématiques, on les oublie quand on les enseigne, quoi, hein, on va directement aux choses. Mais qu'on va trouver des situations contenant, on va proposer donc dans les éléments de Clairaut, des situations qui contiennent une ou des tâches problématiques dont la réponse constitue le savoir visé, justement. Et si vous prenez, bon, il y a toutes sortes de trucs sur Pythagore, Thalès, etc., là-dedans. Il n'y a pas la trigo, d'ailleurs, chez Clairaut, c'est assez étonnant. J'ai regardé encore récemment. Et ce qu'il dit pour la géométrie vaut évidemment pour l'algèbre, où maintenant on a la statistique, on a d'autres domaines des mathématiques, mais l'idée est là, en quelque sorte. Et il poursuivait donc, Clairaut, une idée semblable en montrant l'économie de pensée et de calcul en algèbre que permet de faire l'algèbre par rapport à ce qui existait auparavant, c'est-à-dire jusqu'à, disons, Viète à peu près, c'est-à-dire qu'on faisait des calculs en utilisant ce qu'on appelle des programmes de calcul qu'on retrouve maintenant actuellement dans les programmes de collège. D'accord ? On a des traces de ces programmes de calcul à travers ce que tout le monde a appris un jour, la règle de 3, avec cette petite
comptine qu'on se récite.
Si un objet coûte B euros, alors un objet coûtera B sur A euros et C objets coûteront C fois B sur A euros. Hein, cette petite comptine qu'on peut adapter, etc. Et ce qui s'appelle un programme de calcul. Et on avait toutes sortes de programmes de calcul au Moyen-Âge. Il y avait la règle de fausse position, par exemple, qui permettait de mener à bien des calculs. Bon.
L'algèbre,
eh bien, elle dépasse cette science des programmes de calcul, puisque, bon, peu importe que j'ai des euros ou quoi que ce soit, je vais faire des calculs, résoudre des équations, etc. Voilà. Alors, venons-en à ce que dit la partie que je citais tout à l'heure, qui est la partie du programme de collège commun aux quatre disciplines mathématiques, physique, chimie, biologie et technologie. Ici, on a la définition, en quelque sorte, de ce qu'on va demander pour mettre en place une démarche d'investigation auprès des élèves. Alors, ça se décline en 7 points que je vous ai recopiés ici. Il va falloir choisir une situation problème. C'est le professeur qui a cette charge-là. Puis faire en sorte que les élèves s'approprient le problème. C'est ce que nous, en didactique des mathématiques, on a appelé la dévolution du problème. Alors la dévolution, c'est un terme juridique. Qu'est-ce qu'il signifie, ce terme juridique ? C'était lorsque, au Moyen-Âge, par exemple, à l'époque de la féodalité, certains pouvoirs du souverain était transmis au suzerain. Par exemple, il avait le comte ou je ne sais pas qui, le marquis ou le baron, avait un certain pouvoir dans son domaine. Donc il y avait dévolution de ce pouvoir-là
attribué aux notables, comment on appelle ça, à l'aristocrate, du coin.
Alors, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que ce qui est d'habitude du pouvoir du professeur, à savoir dire le savoir, justement, et s'emparer du problème et donner la réponse, donc le savoir mathématique, ce soit les élèves qui prennent la responsabilité de construire, les élèves, je dis pas l'élève, mais les élèves, de construire le savoir qui va être la réponse à la question problématique, alors le programme dit la situation problème, etc. Bon, on retrouve un peu ça. Alors, vous verrez cet après-midi, on va un petit peu travailler là-dessus. Vous avez cela dans le programme de 2002 pour l'école primaire,
sous une autre forme.
Vous l'avez aussi dans le programme de lycée professionnel. Hein, la démarche d'investigation se trouve là aussi. Bon, ensuite, on formule des conjectures, on investit le problème, on le résout, etc., etc. Voilà. Alors, moi, je me suis posé la question, voyons. Lorsque on a cela dans le document d'accompagnement du programme ou en tête du programme, là, quels sont les mots importants et quelles sont les ressources qui permettent aux enseignants de s'emparer de ce qui est dit dans ce programme-là ? Alors bon, vous voyez, il y a plusieurs étapes, mais on va en retrouver quelques-unes au fil du stage. Hein. Ne copiez pas tout ça. De toute manière, comme je vous l'ai dit, vous aurez les PowerPoint à la fin du stage, donc il suffit de prendre une clé et puis on vous les donnera. Voilà, alors, ce que je trouve en premier, moi, c'est une situation problème. Alors, je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une situation problème ? Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une situation problème ? Est-ce que ça se trouve dans les manuels ? Bon, ce qu'on a vu jusqu'à présent nous permet pas tellement de répondre de manière positive à la question, affirmative à la question. Est-ce que ça se fabrique ? Bon, peut-être. Mais alors, quelles compétences professionnelles faut-il pour fabriquer des situations problèmes ? Est-ce que c'est naturel ? En fait, nous qui sommes depuis 9 ans dans ces opérations dont je vous parlais en introduction, on voit qu'on se casse les dents bien souvent. C'est pas si facile que ça de trouver une situation qui va générer le savoir, qui va pouvoir être dévolue aux élèves pour générer le savoir. C'est pas si simple. Alors, je suis allé voir. J'ai joué celui qui est le professeur en face de ces prérogatives là, injonctions, et je suis allé voir un peu sur les sites internet ce que je pouvais trouver. Alors là, j'espère qu'il y a personne de l'Académie de Limoges parce que je vais encore l'assassiner. Bon, donc ce matin c'est le jeu de massacre. Hein. Vous avez bien vu que bon, voilà. Alors. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans l'Académie de Limoges ? C'est une situation d'apprentissage. Ah bon, d'accord, mais c'est quoi une situation d'apprentissage, vous voyez ? Est-ce qu'on est capable de définir ce que c'est qu'une situation d'apprentissage?
Alors, on vous donnera la clé, hein. Bon, vous inquiétez pas.
Mais
on semble tourner en rond.
Organisé autour d'un obstacle. Mais c'est quoi un obstacle? Quelle est sa nature? C'est un obstacle épistémologique. Il y a des gens ici qui ont travaillé en épistémologie. Est-ce que c'est un obstacle didactique? Est-ce que c'est quelque chose qui est en opposition avec ses connaissances antérieures? Bon, voilà la question. Vous voyez, chaque fois que je rencontre un mot, je me pose des questions et puis, malheureusement, j'ai pas la réponse. Bon, il faut un défi à la portée de l'élève. Bon, donc ça veut dire que ça correspond au... Il peut l'investir, ce défi, à partir de ses connaissances antérieures, sans doute. Sinon, ça n'a pas de sens, etc. Qui dispose pas, au départ, des moyens de trouver la solution. Bon, elle a du sens parce qu'elle fait appel à quelque chose que connaît l'élève. Elle est en lien avec sa réalité. Oui, mais c'est quoi la réalité? Puis après, je trouve le mot concret, là. Elle est concrète. Mais c'est quoi le concret en mathématiques, alors qu'on est... Les mathématiques, c'est de la modélisation. Bon, vous le savez bien. Alors, une action, elle est concrète parce qu'elle a un but, elle sollicite une action. Une action requiert toujours des connaissances, des techniques, des stratégies. Quelles sont-elles? Et puis je vois, doit amener l'élève à y investir ses connaissances antérieures, le conduire à une remise en cause de ses représentations. Alors là, je viens de faire soutenir une thèse sur les représentations. J'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu quelles sont les représentations d'un objet qu'on ne connaît pas. Puisque, justement, on est là pour l'enseigner. Bon. Donc, et à l'élaboration de nouvelles idées.
Bon, voilà. Alors déjà,
moi, quand je trouve ce document, je me pose des questions et j'avance toujours dans l'Académie de Limoges. Comment mettre en œuvre une situation problème? Avant d'élaborer une situation problème, il est nécessaire de répondre aux questions suivantes. Bon, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je peux faire acquérir? Bon, évidemment... C'est quelle est la tâche, quelle tâche puis-je proposer et quel dispositif mettre en place. Ces questions ont l'air banales. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. Tous les professeurs savent bien.
Font cela, bien entendu. Mais encore une fois, comme je vous dis, quand on a essayé de travailler cela, c'est loin d'être banal.
Et la construction de réponses semble relever ici de la capacité de n'importe quel professeur. Je vous assure que nous qui travaillons en équipe, c'est pas si évident que ça.
Et par exemple, je sais pas si on aura, oui, on aura peut-être l'occasion avec Farida
de vous montrer ce qu'on a fait sur l'enseignement des nombres relatifs. Il y a une année de travail pour élaborer ce qu'on a fait sur les nombres relatifs.
Et puis il y a au moins 2 années d'expérimentation dans des classes de 5e pour corriger, se casser la figure, reprendre, etc., ce qu'on a fabriqué. Et on est un collectif.
Autrement dit, c'est pas à la portée du professeur qui a énormément de tâches autres dans son métier à accomplir. Et c'est pas si facile que ça. Pourtant, ça semble couler de source quand on regarde ces documents et ces préconisations. Alors, il va falloir mobiliser pas mal de monde, et puis il va falloir mobiliser des connaissances théoriques pour arriver à se lancer là-dedans. Ces connaissances théoriques, ce qu'on va vous montrer, nous, ce qu'on a fait, elles viennent de la didactique des mathématiques. Alors, la didactique des mathématiques, il y a évidemment tout un aspect théorique, puisque, disons qu'elle naît dans les années 60 avec Guy Brousseau. Elle se développe dans les années 70 à partir de l'échec de la réforme des mathématiques modernes. Et puis, à partir de là, suivent des DEA, puisque c'était le nom à l'époque, des thèses, etc. Donc on a maintenant un corpus extrêmement important de données scientifiques théorisées sur le didactique, c'est-à-dire sur ce qui se passe quand une personne ou une institution a l'intention d'enseigner quelque chose à quelqu'un de manière à ce qu'il puisse se l'approprier. Voilà.
Alors nous, ce qu'on a fait, c'est prendre ces outils théoriques pour s'en servir, pour construire.
C'est-à-dire, c'est des outils, en quelque sorte, même si on continue à faire de la recherche, bien entendu. Mais ce qu'on a fait là pour la démarche d'investigation, c'est se servir de ces bases théoriques en tant qu'outils. Alors, avant de vous donner les outils, j'ai fait une investigation sur le terme d'investigation. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on entend par là et vous verrez que c'est large, c'est très large. Alors, j'ai pris le dictionnaire en ligne du CNRS, là, qui est pertinent, et voilà. Alors,
qu'est-ce qu'il me dit ? Sur le terme de démarche d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une démarche ? C'est une manière d'avancer dans un raisonnement, une manière de penser. Bon, jusque-là, ça va, on suit. Par métonymie, c'est un raisonnement, une pensée, démarche dialectique, etc. Bon, vous avez l'historique là, avant 1662, au figuré, manière de progresser de la raison, de la pensée, et on cite Pascal dans ses pensées. Donc, la question qui surgit, c'est de savoir comment le professeur va conduire la manière dont la classe va progresser, puisqu'on est dans une démarche, mais va progresser en raison. C'est-à-dire que on va poser un problème aux élèves. Pour apporter des réponses à ce problème, ben, vous allez voir qu'on va buter sur de nouvelles questions. Et on va avancer comme ça, de question en question, qui vont se poser non pas par... Alors, dans l'idéal, non pas parce que c'est le professeur qui les pose, mais parce que c'est la logique de la démarche qui fait qu'on rencontre ces questions nouvelles-là. Alors, sur investigation maintenant, puisque à l'origine, bon, toujours pareil... Étymologie, ça vient d'investigatio, de vestigium, qui veut dire trace, en latin. Bon, ce qui après, dans le latin tardif, devient recherche attentive, signifiant chercher, suivre à la trace, suivre une piste à la trace, bon, on est bien là-dedans, rechercher avec soin, scruter, ça c'est le Gaffio qui nous donne ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé en 1550, c'est celui qui cherchait la pierre philosophale, c'était un investigateur. Bon, ben, il pouvait bien chercher, mais bon, on sait que ça n'a pas été trouvé. Mais qu'en cherchant, c'est la quête du Graal, on apprend quand même pas mal de choses, même si on n'a jamais la réponse. Bon, je vous l'ai dit, je répète encore une fois, Inquiry-Based Science Education, avec l'accent tonique là où il faut. L'inquiry-based teaching ou l'evidence-based work. Evidence, en anglais, ça veut dire preuve, hein, ça ne veut pas dire évidence. Bon, et au plan institutionnel, ben, on retrouve le terme, ben, je vous l'ai dit, dans les programmes français, 2002, 2005, 2008, dans le plan de rénovation de l'enseignement scientifique du ministère de l'Éducation nationale. Bon, enfin, voilà. Donc, j'ai mené mon enquête sur ce terme qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. Et donc, disons, depuis 2000, c'est-à-dire que cette préoccupation-là, puisque vous voyez, plan de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école, on est sorti des mathématiques, mais déjà, ces préoccupations existaient au niveau du ministère de l'Éducation nationale, bien avant qu'on lance le terme et qu'ils connaissent une certaine popularité. Alors, revenons au sens premier d'investigation. Investigo. Bon, alors... C'est chercher, suivre à la piste, à la trace, etc. Rechercher avec soin, scruter. Alors après, j'ai continué ma petite quête dans le dictionnaire et j'ai cherché, recherché. Ça donne ça. Chercher à connaître, chercher avec soin, méthode, réflexion, faire une enquête. Tiens, on tombe sur inquiry. Sur la vie, les activités, la conduite de quelqu'un, exercer des poursuites à l'encontre de quelqu'un. Donc, la démarche d'investigation telle qu'on la conçoit va nécessiter une question dont on va rechercher avec soin, comme dit la définition, grâce à une enquête, le recueil de réponses, alors vous allez voir, de réponses, de témoignages de personnes donnant lieu à un rapport écrit. Ça, c'est la suite. C'est la suite, c'est enquête. Enquête, c'est quoi ? C'est une recherche, bon, en boucle, comme vous savez, dans le dictionnaire, on tourne en rond. Donc, je m'arrête là, bien sûr. Donc, une recherche menée dans des secteurs variés, ça c'est une enquête, en recueillant les réponses et témoignages des personnes ou en rassemblant des documents donnant lieu à un rapport écrit. Autrement dit, il va falloir que je rassemble des réponses, des témoignages de personnes, des documents. Ah ben, on est en plein dans la démarche d'investigation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va construire des réponses, on va recueillir les réponses des élèves dans la classe qui vont se mettre à chercher. Des témoignages, bon, passons, des personnes, ah oui, mais des fois, on en a des témoignages. Par exemple, moi, je me souviens, sur les nombres relatifs dont je vous parlais, là, tout à l'heure, on était à rechercher comment on fait pour ajouter de nombres négatifs. Bon, et voilà qu'il y a un élève, alors on avait buté sur la question, les élèves, la classe avaient buté sur la question, bon, alors on a des moyens de les faire avancer. Et voilà un élève qui a recueilli le témoignage de son grand frère qui est en quatrième et qui dit, mon grand frère, il m'a appris, moins par moins, c'est plus. Bon, donc il va falloir évidemment évaluer la qualité du témoignage. Et on sait bien que les témoignages, il faut toujours les prendre avec des pincettes dans les enquêtes policières ou autres. Bon, des documents, on va rechercher dans les médias. C'est les manuels, c'est l'Internet, c'est tout autre chose, etc. Qui va donner lieu à un rapport écrit. Ben, c'est quoi? C'est le cours. Et même, c'est l'enquête. C'est-à-dire que peut-être que dans la classe, il va falloir que l'on ait
un cahier, de recherche dans lequel on va écrire un rapport qui va
jalonner les étapes de notre recherche. Et puis après, ben, une fois qu'on l'aura trouvé, on va le consigner dans le cahier de cours, etc. Et ça va être le cours, etc. Donc, ça suppose une question, une enquête. Toute enquête nécessite d'être dirigée. Bien sûr. Le commissaire Maigret, etc. Bon. Et donc, qui va être le directeur de l'enquête? Dans une classe, il y a un professeur. D'accord? Donc, lui, il va diriger l'enquête. C'est-à-dire que le professeur, il ne va pas s'évanouir. Il va être là pour piloter l'enquête. Et il va avoir des auxiliaires, et puis il y en a des inspecteurs, qui vont ramener des réponses intéressantes, etc. Et qui vont donner lieu ensuite à un rapport écrit. Alors, en fait, quand on regarde les choses de près, on a une multiplicité d'approches pour la démarche d'investigation. Alors là, je fais un petit coup de pub personnel, n'est-ce pas ? On a dirigé avec mon collègue Bernard Calmette, qui est didacticien de la physique, un numéro spécial de la revue Recherche en éducation, qui vient de sortir là, en janvier, qui est publié par le CREN de Nantes. C'est le centre de recherche sur l'enseignement et l'éducation, je ne sais pas trop quoi, de Nantes, sur la démarche d'investigation, vous voyez, les démarches d'investigation et leurs déclinaisons en mathématiques, physique, sciences de la vie et de la Terre. Et dans, alors on a, bon, modestement, on a écrit l'introduction, et dans l'introduction, ben on a cité une de nos collègues qui fréquente pas mal l'IFE, qui est italienne, son prénom, Maschietto, et qui dit la chose suivante. Donc Maschietto résume Michela Maschietto résume la situation en relevant que actuellement il n'existe pas de réelle forme de consensus dans le monde des institutions éducatives des États, parce que c'est un terme qu'on retrouve un peu partout, quel que soit le pays, et dans le monde de la recherche sur ce que sont ou sur ce que devraient être précisément les démarches de type investigation. Voilà. Donc c'est très large. C'est pour ça que je voulais vous indiquer la direction que l'on va prendre. Il y en a peut-être d'autres, etc. Ce que l'on repère dans les publications des recherches dans lesquelles sont mises en œuvre des analyses, des curriculums formels et réalisés relatifs à ces démarches, ce sont, selon l'auteur, donc Michela Maschietto, des acceptions qui constituent un miroir des diverses représentations des démarches d'investigation. Et d'ailleurs, dans ce numéro spécial de recherche en éducation, on a demandé à des collègues italiennes de nous écrire un article, en mathématiques d'ailleurs, et en Italie ça s'appelle « Démarche d'investigation et de démonstration ou de preuve », quelque chose comme ça.
Bon, donc c'est encore autre chose.
Alors, si je récapitule, à partir du sens premier d'investigation, celui du dictionnaire, la démarche d'investigation nécessite donc une question dont on recherche avec soin grâce à une enquête, travail des élèves dirigé par le professeur,
le recueil de réponses et témoignages,
les propositions trouvées ou les médias, ce qu'on va trouver dans les médias. Validé par une confrontation dialectique entre ce qu'on trouve dans divers médias et leurs preuves. Bon, c'est pas parce que j'ai eu le témoignage que moins par moins ça fait plus que je vais l'accepter tel quel. Je vais le soumettre à l'épreuve. Donnant lieu à un rapport écrit, le cours. Bon, la question de la question, ça, elle n'est pas posée dans le document du programme français. Et justement, c'est ça qui est la difficulté première. Ni non plus les outils qui vont permettre de creuser et d'arriver à la question qu'on va dévoluer aux élèves. Et c'est pas si simple que ça, croyez-moi. Bon, voilà, pour ensuite diriger... Alors, j'ai cherché encore sur l'Internet. Alors ici, j'ai trouvé quelque chose qui commence à dater un petit peu.
Je sais pas si vous voyez bien.
qui se trouve sur le pour le lycée professionnel. C'est en première année de BEP, mais en fait, ça correspond au niveau 3e, etc. Alors, le problème qui est ici, là, vous avez le document élève et là, vous avez le document prof. Alors, regardez. Au sein d'une classe de première BEP mécanique auto, le professeur d'atelier demande à ses élèves de relever des cotes sur un moteur de voiture. C'est une Audi V6 de litre 5. Bien. Dans le but de calculer la cylindrée totale du moteur et de la comparer avec les données techniques du constructeur, deux élèves ont malheureusement omis de relever une des cotes importantes, l'alésage, indispensable pour calculer la valeur de la cylindrée. À partir des données techniques du moteur et de la formule permettant de calculer le volume des cylindres, ils vont essayer de retrouver la valeur de l'alésage. Bon, vous avez donc un cylindre qui est dessiné avec le rayon et la hauteur, identification de la formule pour calculer le volume d'un cylindre. 3, analogie entre les lettres et la formule et les cotes, ça c'est le document prof. Et vous avez ensuite, voilà, il va falloir que les élèves calculent à partir de... Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont devoir aller mesurer, etc. Bon, alors moi, j'ai pas de moteur sous la main, et je me suis dit, est-ce que c'est une activité qui a un sens, cela, dans un atelier de mécanique auto ? Ben, j'ai trouvé que le sens il n'était pas pertinent parce que je suis allé sur Google et j'ai tapé moteur d'Audi V6 de litre 5, etc. Et j'ai trouvé tout. Alors je vous fais grâce de ce que j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé que le diamètre d'alésage c'est 78,3 mm, la course c'est 86,4 et la cylindrée c'est pas 2 litres 5 mais c'est 2496 cm3. Et moi qui fais réparer ma voiture comme tout un chacun chez un petit garagiste, maintenant tous les garagistes, y compris les petits, ils ont un ordinateur connecté sur l'internet et ils peuvent retrouver
toutes les dimensions manquantes du moteur. Autrement dit,
bon, et là l'alésage, la course, enfin tout ce que l'on voudra. Et donc, ben ça s'appelle, vous voyez, TP investigation, etc., cylindrée d'un moteur. Le lien avec la réalité, c'est quand même assez fictif, quoi. C'est pas... Bon, ben, si j'ai cette question-là à me poser, moi, en tant que mécanicien auto, je vais aller sur l'Internet, je vais trouver les cotes, et puis je vais ensuite peut-être mesurer directement, mais je vais pas refaire tout un calcul pour calculer la cylindrée du moteur. Donc, c'est pas si simple, hein. Alors, je reviens au sens premier. Quand on fait une enquête... Qu'est-ce qui se passe quand on fait une enquête ? Ben, on va voir qu'il y a deux types de résultats d'enquête qui vont entraîner vers deux types, alors, de ce qu'on appelle en didactique des organisations mathématiques. Alors, prenons l'exemple de tout à l'heure, celui de l'activité bidon, là, vous voyez, par ostension déguisée. Combien ? Alors, je peux poser la question différemment. Au lieu de dire tu places trois points, tu traces les médiatrices, etc., etc., je peux me demander, poser la question aux élèves, combien passe-t-il de cercles par trois points ? Bon, c'est ce qu'on va appeler une activité d'étude et de recherche. Pourquoi ? Ben, alors déjà, on va lancer les élèves dans la recherche. Combien ils passent de cercles par trois points ? Bon, alors ils sont alignés ou ils ne sont pas alignés déjà ? Vous voyez que je n'ai pas indiqué s'ils l'étaient ou pas. Bien. Et qu'est-ce que... Bon, on imagine ce qui va se passer. Alors ça, ça a été fait. Hein. Ça a été fait à Bordeaux. Ça fonctionne très bien. On demande aux élèves combien ils passent de cercles par trois points, etc. Alors avant, on les a plongés dans autre chose. On leur a demandé combien ils passaient de cercles par un point ou par deux points. Bon, alors par deux points, les élèves qui sont en cinquième et qui connaissent la médiatrice du segment, ben, ils trouvent qu'il y a une infinité de centres qui sont sur la médiatrice, etc. D'où, évidemment, on a mis dans le milieu de connaissance des élèves la médiatrice du segment en tant que lieu des points équidistants, des extrémités, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va construire là ? On va construire le théorème du cercle circonscrit au triangle, etc., qui va nourrir la réalisation de divers types de tâches. Par exemple, ben, je les ai indiqués tout à l'heure, retrouver le centre d'un cercle lorsqu'on l'a perdu, trouver un point équidistant de trois points distincts, etc. Voir le cas particulier, si on prend un logiciel de géométrie dynamique, c'est assez intéressant de voir que quand on déplace un troisième sommet et qu'on va le faire tendre vers la droite par laquelle passent les deux points, le centre du cercle circonscrit, il s'éloigne de plus en plus. Et puis il passe de l'autre côté, hein, avec Cabri, il passe de l'autre côté. Enfin, quand c'est aligné, les médiatrices sont parallèles. Puis après, il passe de l'autre côté, il revient. Enfin bon, on peut faire des choses assez jolies comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on va construire avec ça ? On va construire, on va construire le chapitre sur le cercle circonscrit en cinquième. C'est ce qu'on appelle une organisation mathématique locale, c'est-à-dire qu'elle ne nourrit les mathématiques d'un chapitre, grosso modo, et on a les applications, les exercices, etc. Bon. Si je prends un autre exemple. Alors ça, c'était une enquête du premier type. Alors, après, il y a les enquêtes du second type. Alors ici, ça a été fait à Bordeaux, il y a fort longtemps, par Guy Brousseau, dans une brochure qui s'appelle « Rationnel et décimaux dans la scolarité obligatoire » et qu'il a fait passer dans des classes de cours moyens. Alors, la question première, c'est comment mesurer l'épaisseur de divers types de feuilles de papier, notamment les assemblant. Alors bon, évidemment, on commence par donner aux élèves des feuilles de papier qui ont des grammages différents, donc des épaisseurs différentes. Les élèves bataillent, ils prennent une règle, ils prennent un prêt avec coulisses, etc. Bon, ça ne marche pas. Puis à un moment où il y a l'idée qui surgit chez certains élèves d'assembler des feuilles de papier, de faire un paquet de 50 feuilles, de mesurer l'épaisseur et de diviser. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'on construit comme ça ? Ben après, alors on va avoir l'épaisseur d'une feuille de papier, puis après on va les assembler avec les différents grammages, on va mettre des cartons, on va avoir l'addition, etc. Bon, on construit quoi ? Ben ici, on construit un parcours d'études et de recherche, parce que vous allez construire à peu près tout ce qui s'enseigne sur les fractions. Alors bon, l'anneau, Q plus multiplié, pour parler mathématiques, au niveau du collège, de cette manière-là. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va se construire sur au moins trois classes du collège, la sixième, la cinquième, la quatrième, puisque en quatrième, on a le produit, le quotient et les puissances ensuite sur les fractions. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est une organisation mathématique de plus grande ampleur que celle qui existait au niveau du cercle circonscrit au triangle. Et on va voir que vont surgir diverses questions au fur et à mesure que l'on va avancer. Donc, deux nombres vont représenter une épaisseur. Deux nombres vont en représenter un seul. Bon, alors on a une relation d'équivalence, bon, etc. On a les fractions qui apparaissent comme ça. Mais après, si j'empile des feuilles de différentes épaisseurs, je vais avoir l'addition qui va surgir. Je vais avoir la multiplication par un entier qui va arriver. Bon, et puis après, il y a tout ça. Donc, il y a de nouvelles questions qui surgissent, qui font que l'on parcourt par la recherche tout un pan des mathématiques et que l'on étudie en même temps. Voilà. Alors, la question, c'est, avec mon enquête du premier type, est-ce que j'aurais pas pu construire un parcours ? Bref, il aurait suffi que je pose la question suivante. Alors, évidemment, là, je la pose brutalement. Mais j'aurais pu la poser différemment en disant, bon, ben écoutez, on a vu pour un point, il y a une infinité de cercles. Pour deux points, il y en a une infinité. Pour trois, il y en a un seul, quand ils sont non alignés. Pour quatre, ah ben là, ça dépend. Pour cinq, etc. Je peux aller jusqu'à la co-cyclicité qui était auparavant enseignée au cycle terminal des lycées, en S. Bon, ça ne l'est plus, mais passons. Donc, voyez qu'avec cette question-là, combien de cercles passent-ils par n points, je pourrais, en transformant ma question, construire un parcours qui va suivre, eh ben, que je vais reprendre à différents moments du cursus secondaire, disons. D'accord ? Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, quand on le peut, c'est des enquêtes du second type, bien entendu, pour construire d'authentiques parcours, parce que une des causes qui sont à l'origine un peu, qu'on peut identifier depuis l'enseignement des mathématiques, de ce désintérêt pour les maths des élèves. Un, c'est, on l'a vu tout à l'heure avec Clairaut et puis ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que les raisons d'être du savoir mathématique, la fonctionnalité du savoir mathématique, elle n'est pas forcément rencontrée par les élèves en acte dans l'enseignement des mathématiques. Et la deuxième, c'est que les chapitres se succèdent les uns les autres. Il suffit de prendre un manuel à n'importe quel niveau pour voir qu'il est organisé en une dizaine de chapitres à peu près, qui semblent, pas du point de vue du professeur, mais du point de vue des élèves, déconnectés les uns des autres. Très souvent, c'est-à-dire que lorsqu'on a étudié cela, ben c'est clos, on passe à autre chose. Alors bon, on sait bien que dans l'éducation nationale, on préconise un enseignement spiralaire. Oui, bon, est-il réalisé tout le temps ? C'est pas sûr. Et est-il motivé par des questions ? Surtout qui vont se poser au fur et à mesure qu'on va mener l'enquête, ça c'est encore moins sûr. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. C'est des enquêtes du deuxième type. Alors, ces enquêtes du deuxième type, comme je vous l'ai dit, cette démarche d'investigation, et en reprenant la citation de Michela Maschietto, elle est multiple à travers les États, les pays, les manières d'enseigner, etc. Alors, donc, nous, on a fait un choix. On a fait un choix parce qu'on est dans des contraintes. Et on est soumis à des contraintes qui sont enseigner le programme, parce qu'on ne veut pas faire autre chose qu'enseigner le programme de mathématiques tel qu'il existe, et dans un temps donné, sous des conditions données. Et les conditions données, par exemple, c'est le fait qu'au niveau du collège et du lycée, les cours de maths, c'est une heure, voire deux heures consécutives, mais pas plus. À l'école primaire, le professeur des écoles a la possibilité de moduler un petit peu plus. Mais à la fin de l'heure, c'est fini, puis il y a le cours d'anglais ou autre chose qui vient, etc. Donc, on a ces contraintes-là. Alors, comment faire ? Comment faire ? Voilà ce qu'on a fait. Donc, je suis revenu à mon enquête sur la démarche d'investigation et sur les enquêtes. Divers types d'enquêtes ou de recherches dans un cadre scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, voilà grosso modo, dans un tableau à double entrée, tout ce qu'on peut retrouver à travers la démarche d'investigation, en quelque sorte. Alors, voyez ici, j'ai disciplinaire, codisciplinaire en colonne et finalisé, non finalisé en ligne. Alors, disciplinaire. Disciplinaire, c'est en mathématiques, c'est en physique, etc. Mais on ne va pas sortir de la discipline. Et évidemment, tel que l'enseignement est à l'heure actuelle organisé, il est découpé en disciplines. C'est moins vrai au niveau de l'enseignement primaire. C'est moins vrai au niveau des thèmes de convergence. Mais qui pratique les thèmes de convergence ? Même si c'est une injonction institutionnelle. Bon. Donc, il peut y avoir du disciplinaire, c'est-à-dire qu'on va poser une question et la réponse, elle va se trouver dans la discipline. Ça peut être du codisciplinaire. On va poser une question et pour arriver à répondre à la question, il va falloir taper dans plusieurs disciplines. Et ça, par exemple, ça existe au niveau des TPE qui continuent de vivre au niveau de la première. Et donc, vous savez que ça croise, les injonctions institutionnelles, c'est que ça croise au moins deux disciplines et qu'il y a deux professeurs en règle générale, de la dominante de la série, en règle générale aussi, qui dirige les TPE au niveau de la première. Bon, et donc, on va répondre à des questions. L'autre jour, j'en parlais encore, c'était à Paris, sur la Caulerpa taxifolia. La Caulerpa taxifolia, c'est une algue tueuse en Méditerranée qui bouffe l'herbe des Posidonies, où les poissons se reproduisent. C'est des herbes qui sont au fond du... évidemment, si les poissons se reproduisent plus, il n'y a plus de poissons. Ça va de soi. Et j'ai vu des élèves qui travaillaient à la fois sur le domaine de la biologie, donc de cette algue tueuse, etc., et qui essayaient de trouver des modèles mathématiques, donc des suites, qui allaient permettre de voir l'expansion de cette Caulerpa taxifolia qui est partie du musée océanographique de Monaco et qui a colonisé toute la côte méditerranéenne jusqu'à Barcelone d'un côté et jusqu'à Rome de l'autre côté. Donc, on peut faire des maths aussi en modélisant l'accroissement, l'expansion de cette algue et de la biologie aussi. Et puis là, la biologie, il y en a beaucoup à creuser, parce que pourquoi elle bouffe les Posidonies et les réactions qu'il y a, etc., etc. Ça, c'est du codisciplinaire. Finalisé ou non finalisé ? Alors, finalisé, ça veut dire dans le programme ou hors du programme ? Ou est-ce qu'on sait où ça nous conduit ou est-ce qu'on ne sait pas où ça nous conduit ? Parce qu'il y a des tas de TPE, on ne sait pas, et les professeurs, évidemment, et c'est normal, ne savent pas où la question du TPE va les mener. Alors moi, j'ai un autre exemple sur les TPE, c'était le bio. C'est bon ou c'est mauvais pour la santé ?
Alors donc, l'élève qui fait ça, elle prend les nitrates.
D'abord, on réduit les nitrates. C'est bon ou c'est pas bon ? C'est pas bon parce que dans les années 60, aux États-Unis, il y a des bébés qui sont morts en mangeant des petits pots de carottes qui étaient trop nitratés. Et quand vous avez un taux de nitrate dans le sang trop élevé, vous mourrez. Voilà. qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend les nitrates, ça se fixe dans des carottes, je viens de le dire, ou dans la salade, etc. Donc, elle prend une salade de bio et une salade pas bio. Il y en a pas mal.
Elle fait un broyat, réaction.
Où est-ce qu'il y avait le plus de nitrates, à votre avis ? Dans le bio, évidemment. Parce que dans le pas bio, ben là, les nitrates, ils sont dosés à l'hectare ou je sais pas trop quoi. Et dans le bio, peut-être qu'elle est tombée sur la partie du fumier où a poussé la salade. Et voilà. Bon. Donc, la réponse, on ne sait pas. Là. Voilà, conclusion du TPE, on ne sait pas. Hein, voilà. Bien, donc on ne sait pas où ça va nous mener. Alors, j'ai pris divers exemples. Les problèmes ouverts. Type, alors ici, comme on est à Lyon, vous avez entendu parler, à l'IREM de Lyon, de la conjecture d'Erdős-Strauss. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette conjecture? Erdős était un mathématicien tchèque qui est mort récemment. Non, dans les années 80, je crois. Je ne sais plus. Bon, et spécialiste de théorie des nombres. La conjecture d'Erdős-Strauss, elle dit que toute fraction du type 4 sur n se décompose en somme de trois fractions, 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c. Bon, on a des démonstrations de cette conjecture pour certaines valeurs de n, mais pas pour toutes. Donc,
c'est un problème qui reste encore
ouvert au niveau de la recherche en mathématiques. Il n'y a pas encore de réponse. La recherche en mathématiques, les TPE, ben, je vous en ai parlé, c'est pas finalisé, c'est codisciplinaire. Les questions ouvertes,
elles peuvent être codisciplinaires,
non finalisées. On peut facilement sortir du programme de cette manière-là. Et ici, on a du codisciplinaire finalisé à travers les thèmes de convergence, qui ne vivent quasiment pas, je pense, au niveau du collège. Et nous, ce qu'on a appris, c'est ça. C'est des activités et des parcours d'études et de recherche, qu'on va acronyme AER et PER, ou l'ingénierie didactique, au même titre que ce que je vous ai montré tout à l'heure à travers les feuilles de papier qui est de l'ingénierie didactique qui viennent des recherches menées par Guy Brousseau dans les années 70. Donc, ce que l'on va faire, ce sont des activités et des parcours d'études et de recherches en mathématiques, on va pas sortir de là, et finalisés par l'enseignement du programme, de manière à ce que ça puisse vivre à l'intérieur du système éducatif tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle. Bon, alors vous allez voir, ça paraît un peu restrictif, mais c'est quand même assez intéressant là. D'autant que tout le reste a des difficultés à vivre. Alors vous savez que les TPE n'existent plus qu'en première maintenant, alors qu'ils existaient en première et terminale. Les thèmes de convergence, ils n'existent pas beaucoup. Les problèmes ouverts, bon, ben, de temps en temps, un petit peu, etc. Et donc, nous, ce qu'on a choisi ici a des chances de vivre plus largement. Ce qu'on a fait, et on vous montrera nos productions, ça vit localement dans certains établissements scolaires, y compris en ZEP. On pourrait croire que bon, c'est réservé à des élèves des bons établissements scolaires. Ce n'est pas forcément le cas, à condition que les conditions institutionnelles et professionnelles soient mises en place pour ce changement, et les conditions professionnelles, c'est la formation, on s'en doutera. Alors, ce qui m'intéresse, moi, fortement, c'est qui mène l'enquête. Parce que c'est bien joli de faire une enquête sur quelque chose, mais qui la mène? Qui mène l'enquête? Et là, il y a deux formes d'organisation qui vont apparaître. Alors, première forme d'enquête, l'enquêteur. C'est le type, vous voyez, Nestor Burma ou commissaire Maigret, quoi. Il est à peu près seul à trouver la réponse, d'accord? Et il la connaît. Alors, si je transpose ça, alors Nestor Burma, bon, ouais, d'accord. Alors, Maigret, il a des auxiliaires, là, mais enfin, qui lui ramènent deux, trois informations de temps en temps. Donc, ça, c'est le cours magistral ou le cours dirigé, un petit peu, avec les activités d'Emmanuel. Nestor Burma, il a personne, sauf sa secrétaire qui est secrètement amoureuse de lui, mais bon, on voit pas trop dans la classe qui est amoureux du prof de maths, enfin, encore que. Bon, et ça, c'est l'enquête policière transposée dans la classe. Voilà, c'est le cours magistral ou l'activité d'Emmanuel, c'est la forme standard, c'est l'enseignant qui montre, parce que enseignant, vous savez bien que c'est l'étymologie, c'est celui qui fait signe, et celui qui fait signe, ben, il montre, bien sûr.
D'où l'ostension.
Ça, c'est la première forme d'enquête. Deuxième forme d'enquête, alors là, bon, là, on n'en sait pas trop, on pense qu'il y en a à l'heure actuelle, c'est des équipes sous une direction centrale. Et là, par exemple, vous avez la direction centrale du renseignement intérieur. Hein, là, voilà, et là, il n'y a pas de film sur le sujet. Bon, je pense qu'ils travaillent beaucoup actuellement, ces gens-là, mais on ne les voit pas trop travailler, il vaut mieux pas, bon, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on essaye de faire vivre. C'est ce qu'on va appeler un enseignement par adaptation, c'est-à-dire que les élèves vont s'adapter aux situations que l'on va dévoluer et ils vont produire les mathématiques comme ça ou par direction d'études. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire vivre nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un directeur qui est le professeur, mais il va y avoir des équipes dans la classe qui vont essayer de chercher les réponses à la question, et c'est évidemment les élèves. Conséquences didactiques de cela. Quand vous êtes Nestor Burma, que vous avez la réponse, ou le commissaire Maigret, ou quand j'étais petit, il y avait les 5 dernières minutes à la télévision, il y avait le commissaire Bourrel, alors il y avait un commissaire, un inspecteur, l'inspecteur était toujours à côté de la plaque, et le Bourrel, il disait, bon sang, mais c'est bien sûr, il vous donnait la réponse à la fin. C'était les 5 dernières minutes, quoi, des émissions. Voilà, j'en vois dans la salle qui connaissent, qui ont fréquenté ce genre de choses. Quand je le transforme dans l'enseignement, quand je donne la réponse, je vous montre quelque chose, je vous montre la solution. C'est ce qu'on appelle l'ostension, d'accord ? Direct, le cours magistral, ou déguisé, l'activité des manuels que l'on a rencontrée dans certaines activités que je vous ai montrées tout à l'heure, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que qui a la responsabilité de produire la réponse ? C'est le professeur, d'accord ? Voilà. Et la question, elle est où ? La question, elle a disparu. On a bien vu dans le produit scalaire qu'il n'y avait plus de questions, etc. Bon, alors, donc, dans le cas de l'ostension, la responsabilité de rechercher la question à laquelle le savoir enseigné peut répondre, le prof, il la connaît, mais les bons élèves, ils vont la rechercher par eux-mêmes, de manière privée, mais elle n'est jamais publique dans la classe, elle n'est jamais construite collectivement. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est le contraire, c'est-à-dire un enseignement par la recherche, qui est rare dans l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire que la responsabilité de faire rencontrer la question par les élèves et de leur faire produire la réponse va incomber au professeur. Donc, le professeur, il n'est pas absent du tout. Il a construit la question, il a dévolu aux élèves et, évidemment, il a déjà prévu a priori les étapes par lesquelles les élèves ont de fortes chances de passer dans leur recherche de la réponse à la question. Et ça, c'est pas simple du tout à réaliser, bien entendu. Bon, je dis, il a prévu les étapes par lesquelles les élèves ont une forte probabilité de, parce qu'on est dans le domaine du vivant et des interactions humaines. Et donc, rien n'est jamais sûr dans le domaine des interactions humaines. On va essayer d'accroître la probabilité que ça fonctionne. Voilà. On est modeste. On va pas aller plus avant. Mais bon, en règle générale, ce qu'on a vu, c'est que ça fonctionne. À peu près, il y a toujours quelques élèves dans la classe qui soulèvent les questions, qui apportent les réponses, ça diffuse, il y en a d'autres qui s'en emparent, etc. Et puis on avance de cette manière-là, comme ça, sous la direction du professeur. C'est-à-dire que lui, il va... Bon, par exemple, je cite de mémoire, toujours sur les relatifs, puisque j'ai pris cet exemple-là. Bon, il y a des questions... les élèves ne savent pas trop comment on fait pour ajouter un négatif et un positif. Et on donne, alors on prend moins 7 et 2 traditionnellement, et plus 2 par exemple. Bon, alors moins 7 plus 2, ça fait quoi ? Bon, je ne sais pas. Et puis on donne moins 7 moins moins 2. Alors il y a des élèves chaque fois qui vous disent que ça fait 5. Bon, parce que 7 et 2, il y a une soustraction.
Le professeur dit, il dirige, il dit, écoutez, vous me dites que ça fait 5 pour l'addition et vous me dites que ça fait 5 pour la soustraction. Ça serait quand même étonnant que quand je prends deux nombres, quand je les ajoute, ça donne, et quand je les soustrais, ça donne le même résultat. Il dirige, vous voyez, il ne donne pas d'indication, mais il montre que, sans doute, là, il y a une contradiction qu'il va falloir lever à un moment donné.
Alors, donc, la démarche d'investigation nécessite de changer de direction, effectivement. Donc, je le rabâche depuis tout à l'heure, il faut faire vivre par les élèves les maths comme des réponses à des questions. C'est-à-dire un savoir qui soit fonctionnel et on l'aura construit en menant une enquête et en rassemblant des éléments divers, des témoignages, des recherches dans des médias, etc. Et ils vont partager la responsabilité de la construction de la réponse, ce qui suppose, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on va dévoluer l'instruction des questions aux élèves. C'est vous qui allez instruire ces questions et aller rechercher les réponses. Bon, les maths qui sont...
Les réponses, c'est les maths du programme.
C'est ce que je vous ai dit, et on ne sort pas de là. C'est une contrainte qu'on s'est fixée. Et elles peuvent être partiellement, parfois, fournies par le professeur. C'est pas grave si le professeur, il enseigne, c'est-à-dire il indique, il montre, à condition que on se soit posé la question et qu'on l'ait travaillé. Le professeur, il va jouer le rôle de média. Les élèves, c'est une illusion complète de croire que tout va sortir de la tête des élèves, même dans un collectif avec la force d'une classe. S'ils recherchent dans un manuel, s'ils recherchent sur l'internet ou avec le grand frère, etc., c'est parce qu'avant, ils se sont posé la question, ils ont buté, et puis, ben, il faut bien... Mais on fait tous comme ça, après tout. Pourquoi on l'interdirait aux élèves? Donc, on n'est pas dans une logique de constructivisme radical
où tout va sortir de la tête des élèves. Le professeur,
il a encore la possibilité d'enseigner, d'indiquer le savoir. À cette condition-là, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il va falloir... Il va falloir mettre en place des conditions qui sont parfois ignorées par le système, et il va falloir évoluer à l'intérieur de contraintes qui sont les contraintes du système, et bon, on les accepte, voilà, parce que ces contraintes sont aussi des conditions pour que tout enseignement puisse avoir lieu. L'enseignement de toutes les disciplines, un programme, des horaires, etc., un découpage dans l'année, enfin, tout ce que vous voudrez, voilà. Des examens, enfin bon. Alors, il faut donc, ce qu'on va faire, motiver l'étude à partir d'une question problématique dévolue aux élèves. Ce qui entraîne, du point de vue du professeur, qu'il possède la capacité de mener des analyses mathématiques et didactiques a priori. C'est-à-dire qu'il conçoive... Alors, les maths, là, voilà. Ça veut dire que je vais sans doute faire une petite étude épistémologique.
Je sais pas, moi.
Je prends n'importe quoi. Le théorème de Thalès, il sert à quoi? À quoi? Alors là, tout le monde le sait que ça sert à mesurer la pyramide. Bon, le produit scalaire, il sert à quoi? Ah, tiens, le produit scalaire, bon, il sert à beaucoup de choses. Oui, mais est-ce que je pourrais trouver une question dont les élèves puissent s'emparer, l'étudier, avec leurs connaissances antérieures, de manière à construire ensuite, qui va me conduire aux quatre expressions du produit scalaire, au théorème d'Al-Kashi, à la résolution des triangles, enfin, à tout ce qui se fait avec le produit scalaire, etc. Est-ce que ça, je peux arriver à trouver une question? Bon. Et didactique, c'est-à-dire par où les élèves vont-ils passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Quelle est la place que je vais laisser aux élèves? Quelle est la place que moi, je professeur, je vais continuer d'occuper? A priori. Étudier les conditions, donc, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser une question qui va engendrer une organisation mathématique locale, c'est-à-dire un chapitre, ou au contraire tout un parcours, une organisation mathématique très grande que je vais pouvoir dérouler sur plusieurs années du cursus, que je vais reprendre en reposant des questions, etc. Alors, bon, si je prends la question des distances inaccessibles, qui est celle de Clairaut, ben oui, je peux commencer en sixième, avec des plans, des échelles, c'est le programme de sixième. Je peux calculer la distance entre, je sais pas moi, le Mont Blanc et le Puy de Dôme, ou je sais pas trop quoi, à vol d'oiseau, bon, etc. En cinquième, est-ce que je peux le faire? Ben oui, j'ai les triangles, j'ai la construction des triangles. Quelque part dans le programme de cinquième, il y a encore les cas d'égalité ou d'isométrie des triangles qui traînent. Construire un triangle connaissant les trois côtés, connaissant un angle et les côtés, les longueurs des côtés, etc. J'ai ça. En quatrième, j'ai beaucoup de choses. J'ai Pythagore, j'ai Thalès et j'ai le cosinus. En troisième, ça continue. J'ai le sinus et la tangente. En première, j'ai la résolution, j'ai Al-Kashi. Voilà. Bon, etc., etc. Vous voyez que je peux, avec ma question « Comment trouver la distance entre deux points inaccessibles ?», que je peux reprendre, évidemment, en adaptant les situations à chaque niveau, je peux la dérouler tout au long du cursus. Peut-être que j'ai des chances qu'à la fin du cursus, les élèves ne posent plus la question à quoi ça sert la géométrie. Parce que cette question-là, croyez-moi, il y a des gens sérieux qui se la posent.
Une année, on est auditionné par une commission parlementaire sur les mathématiques, la réforme des programmes. Bon, j'y vais avec
J'y vais avec mon collègue qui était président de l'association des professeurs de recherche en didactique des lettres, et moi j'étais président de la recherche en didactique des maths. Donc on y va, on est reçu par un député, bon, qui était lui-même un enseignant. Il était formateur en EPS dans un UFM. C'était le président de la commission. Et il nous auditionne, et puis à la fin il dit, écoutez, à quoi ça sert la géométrie? Voilà, il m'a posé cette question-là. À quoi ça sert la géométrie? Bon, je lui ai répondu qu'il avait sans doute un GPS dans sa voiture, et que s'il n'y avait pas des satellites et une sorte de triangulation qui n'en est pas tout à fait une,
sur la sphère terrestre, il serait bien handicapé.
Alors il me répond, moi je m'en fous pourvu que ça marche. Bon, d'accord, mais j'ai quand même répondu qu'il fallait des ingénieurs pour concevoir le système GPS, etc. Bon, et donc peut-être, si on voulait que les générations montantes connaissent encore et comment fonctionne le GPS et l'améliore, il fallait peut-être enseigner un peu de géométrie et puis d'autres mathématiques et de la physique, bien entendu. Bon, donc, vous voyez, essayez de donner du sens à ce qu'on enseigne. Donc, il faut étudier les conditions de réalisation effective telles qu'elles se sont passées dans les classes. Ce qui suppose, ce que je vous disais tout à l'heure, pour adapter ce qu'on fabrique, il faut faire des analyses a posteriori. C'est-à-dire, on va dans les classes, on filme, on regarde, on analyse et puis on corrige éventuellement. Il faut laisser du jeu. Mais pas trop, mais un peu. Pourquoi ? Parce que dans des situations de classe, il y a toujours l'imprévu, bien sûr. Donc, le prof, il est là pour réguler l'imprévu. Bon, donc, il y a du jeu et il faut qu'il y ait plusieurs possibilités, et puis il y a tout ce qu'on est incapable de prévoir a priori, et le prof, il est là pour le gérer. Sous contrôle théorique, il ne faut pas trop déraper quand même, parce que sinon, on rate tout. Et donc, pour ça, il faut des collectifs, parce que le professeur seul, il c'est impossible. C'est trop gros, quoi, voilà. Donc, il faut des collectifs pour concevoir ces ressources-là. Donc, ça suppose des professeurs formés, etc., etc., pour pouvoir le concevoir et aussi pour pouvoir s'en servir. Parce que ce qu'on a vu, nos collègues qui travaillent dans notre opération qui s'appelle PERM, Parcours d'études et de recherche en mathématiques dans l'enseignement secondaire, qui sont à Bordeaux, je ne sais pas s'il y a des Bordelais ici, je ne crois pas, ils produisent des documents à partir de ce que je viens de vous dire, qu'ils diffusent. Et puis parfois ils ont des retours, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, mais il faut savoir le faire marcher. C'est comme si moi qui conduis une deux chevaux, d'un seul coup, vous mettez dans une Formule 1. Hein. Peut-être que premier virage, je m'envoie en l'air. Bon, voilà.
Parce que
déjà, la première, elle monte à 110 sur une Formule 1. sur ma deux chevaux, je montais à 20 à l'heure. Et puis, il n'y en a plus, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là?
Regardez, voilà ici. Grosso modo, alors ça s'appelle un bout d'échelle des niveaux de codétermination didactique.
Bon, je passe, c'est le terme savant. Comment sont organisées les mathématiques? Les mathématiques, là, il y a la discipline, alors c'est les maths. Il y a des domaines, il y a des grands domaines. Alors il y a la géométrie, il y a l'algèbre, même si ça s'appelle plus comme ça, le numérique. Il y a l'analyse, il y a la statistique, etc. Il y a des grands domaines des mathématiques, etc. Les domaines sont décomposés en secteurs, qui sont décomposés en thèmes et qui sont décomposés en sujets. Je prends un exemple. Sujet, déterminer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, connaissant les deux autres côtés.
Ça, c'est un sujet.
Je remonte. Thème, ça, c'est un chapitre. C'est le théorème de Pythagore. Secteur,
géométrie plane.
Domaine, géométrie. D'accord ?
Qu'est-ce qui se passe en règle générale ?
Alors, normalement, j'aurais dû avoir les flèches qui marchaient très bien, mais là, vous avez tout d'un seul coup. Qu'est-ce que le professeur qui est formé, qui connaît les maths, etc., il a son CAPES ou son agrégation, ou il est professeur des écoles, donc il s'y connaît quand même un peu en mathématiques. Il connaît la géométrie, il sait à peu près à quoi ça correspond, il a des idées. Et il veut enseigner, ce que j'ai dit, là, calculer la longueur d'un côté. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va descendre au niveau du sujet. Et pour descendre au niveau du sujet, il va découper le savoir mathématique. C'est ce qu'on trouve dans les différents chapitres d'un manuel scolaire. Donc, il va morceler le savoir en le découpant en sujets. Les élèves, à quel niveau sont-ils ? Trouver la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Ils sont au niveau du sujet. Donc, pour trouver du sens à ce qu'on leur fait faire, ils doivent par eux-mêmes remonter. Ah, ça, c'est le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, c'est la géométrie. La géométrie, ça me permet de calculer des longueurs quand je connais certaines données, etc. Donc, voilà ce que font les bons élèves. Ils remontent par eux-mêmes et ça apporte du sens. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va poser les élèves, on va enseigner les élèves, on va poser des questions aux élèves au niveau des domaines. Alors, ça suppose d'avoir fait une étude épistémologique. C'est quoi la géométrie ? Bon, ben, Clairaut nous répond. C'est quoi l'algèbre ? Clairaut nous répond. C'est quoi les fonctions ? Clairaut n'a pas répondu. Bon, mais on peut trouver à quoi ça sert les fonctions.
C'est quoi la statistique ? Bon, Clairaut, ça n'existait pas à son époque.
Bon, mais on peut trouver en creusant. Est-ce que je peux arriver en connaissant les questions, les grandes questions auxquelles répondent ces domaines, est-ce que je peux arriver à trouver
une question que je vais transposer et que je vais dévoluer aux élèves
qui va permettre, en enquêtant sur cette question, en investiguant, est-ce que ça va permettre de construire comme réponse les mathématiques du programme ? Question que je peux reprendre en plusieurs fois, évidemment. D'accord ? Voilà. Donc, le professeur, il va devoir monter à ce niveau-là et trouver et chercher des questions génératrices de certains domaines, et quand on ne peut pas, ben des secteurs, et quand on ne peut pas, des thèmes. Mais au moins qu'ils trouvent une question génératrice, parce que vous avez des isola dans les programmes. Hein. Bon, si vous prenez l'arithmétique, oui, on sait à quoi ça sert l'arithmétique, mais parfois, quand c'est enseigné au niveau de la troisième ou de la seconde, c'est difficile de trouver des questions génératrices.
Bon, alors il y a des morceaux de mathématiques du programme, on n'arrive pas à trouver.
Mais il y en a d'autres où on arrive à trouver des questions qu'on va dévoluer aux élèves et qui vont générer par l'enquête les mathématiques que l'on veut enseigner, que l'on veut que les élèves étudient, en quelque sorte. Voilà. Alors, ça suppose qu'on rompe définitivement avec des textes à questions enchaînées, tels que je vous en ai montré deux fois
aux élèves, dans lesquels le sens disparaît, mais qu'on dévolue aux élèves la responsabilité de se poser des questions
et d'enquêter sur les questions. Plof, tiens, ça clignote encore. Voilà. Alors, conclusion, la route est longue. Ça suppose de la volonté, bon, c'est sûr. Ça suppose des moyens humains en recherche et développement. Bon, il n'y a personne là du ministère, ici, dans la salle. Et une authentique formation universitaire des enseignants. Merci.